Je voudrais commencer par remercier vivement l'Institut Villet, ses responsables, le président de séance Denis Barranger, le président de l'Institut Olivier Beau qui n'est pas là mais qui, sans qui cette réunion n'aurait pas eu lieu, d'avoir organisé cette réunion. Et je voudrais aussi remercier très sincèrement et très vivement les collègues qui ont pris sur leur temps pour venir discuter ce tout petit livre à qui beaucoup d'honneur est fait. Et merci aussi à tous d'être là. Bon, je vais essayer d'être rapide parce que, après tout, moi, ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans le livre, donc c'est plutôt ce que les autres disent qui est intéressant. Je voulais d'abord rappeler simplement que Kant n'a jamais été mon principal objet d'étude, mais qu'il y a toujours été présent. Je suis considéré, entre autres, comme un spécialiste de Hegel, et il est évidemment impossible de travailler sérieusement sur Hegel si on ne va pas aussi s'interroger et sur Kant. Et d'ailleurs, un de mes tout premiers articles, c'était en 1990, dans la revue de Métaphysique et de Morale, portait précisément sur le rapport entre Kant et Hegel à propos de la question de la fondation de l'éthique. Alors, dans cet article, comme d'autres commentateurs, d'ailleurs, j'avais un petit peu tendance à quantiser Hegel. Et alors, pour me faire pardonner cela, j'ai essayé dans ce petit livre, très longtemps après, d'hegelianiser un peu Kant pour rétablir un équilibre. Je ne sais pas si c'est réussi dans un sens comme dans l'autre. Je vais passer sur quelques considérations préliminaires. Moi, je disais que, j'ai pas conçu ce livre comme un livre d'histoire de la philosophie. C'est pour ça que je me suis abstenu, compte tenu de sa longueur d'ailleurs, de me référer à des commentateurs, etc., que j'ai lus, bien sûr, dont j'ai beaucoup appris. Mais j'ai plutôt conçu ça comme une réflexion actuelle sur la normativité, et en particulier sur les rapports entre normativité juridique et normativité éthique, à partir de l'œuvre de Kant. Donc, c'est pour ça que j'ai sous-titré le livre « Essai sur Kant ». Ça ne prétend pas être autre chose qu'un essai sur Kant. À titre secondaire, j'avais comme but aussi de... Bon, j'ai lu beaucoup de littérature anglo-saxonne sur Kant ces dernières années, et j'avais, j'ai toujours une certaine insatisfaction à l'égard de l'image qui est donnée dans des travaux, par ailleurs, d'une acribie exceptionnelle, très souvent, et qui ont beaucoup apporté. Mais il est convenu dans le monde anglo-saxon, depuis que Rawls en a décidé ainsi, que Kant est le représentant typique de ce qu'on appelle une théorie déontologique, par opposition aux théories conséquentialistes. Et j'ai voulu, notamment dans l'introduction du livre, où je reviens sur la fameuse polémique entre Kant et Benjamin Constant à propos du droit de mentir, j'ai essayé de montrer que les choses étaient un petit peu plus compliquées que cela, et qu'on ne pouvait pas tout uniquement qualifier les positions kantiennes de déontologisme strict. Pour ma part, j'ai osé parler, en analysant précisément les réponses qu'il fait à Constant, d'un déontologisme affaibli. Et j'étais frappé par le fait que, contrairement à la représentation qu'on se fait couramment des dites théories déontologiques, Kant ne cesse de parler des conséquences des actes. Et par conséquent, ça nous amène aussi peut-être à nous interroger sur la pertinence de telles classifications comme, d'un côté, théorie déontologique, de l'autre, théorie conséquentialiste, etc. etc. Bon. Pour l'essentiel, je dirais que le propos du livre se décline en quatre questions qui correspondent en gros, qui correspondent exactement aux quatre chapitres du livre. Première question, les transformations du concept, des concepts de liberté et de volonté. Les lecteurs de la critique de la raison pure savent, et se sont certainement, comme moi, beaucoup gratté la tête à ce propos, que Kant, dans la critique de la raison pure, distingue plusieurs concepts de liberté: liberté transcendantale, liberté pratique, liberté cosmologique, liberté négative, liberté positive. On s'y perd un peu, et je me suis dit qu'il était utile de mettre de l'ordre. Et il m'est apparu, ça je ne suis certainement pas le premier, que ces concepts avaient, notamment ces différents concepts de la liberté, avaient bougé, en quelque sorte, après la critique de la raison pure. Alors, cette transformation se fait en deux vagues. Et disons, autant la première vague est assez connue et répertoriée par les commentateurs, autant la deuxième l'est moins. Bon, tout d'abord, on sait que une première modification du paysage a lieu en 1785-1788 avec la publication, coup sur coup ou presque, de la fondation de la métaphysique des mœurs. Je reprends la traduction d'Alain Renaud, puisque le mot allemand Grundlegung, qui désigne une opération, se traduit mieux par fondation que par fondement. Ça serait Grundlagen. Bon, mais ça, c'est un détail. Dans la fondation de la métaphysique et la critique de la raison pratique, Kant se convainc à ce moment, ce qui n'était nullement évident lors de la première édition de la critique de la raison pure en 1781, que la vocation propre de la raison est d'être normative, pratique dans les termes de Kant, avant que d'être cognitive, spéculative, théorique dans les termes de Kant. La deuxième vague, en revanche, qui continue à faire bouger les concepts, si je puis dire, elle est moins commentée. Et elle a lieu entre 1793 et 1797, avec la publication de « La religion dans les limites de la simple raison », du fameux essai sur la paix perpétuelle, et bien sûr, pour terminer, de la métaphysique des mœurs et de ses deux parties, doctrine du droit, doctrine de la vertu. Le marqueur de cette évolution en deux étapes que connaît la théorie kantienne de la liberté est la distinction toujours plus tranchée qu'il fait entre la volonté, en allemand der Wille, et l'arbitre, en allemand die Willkür. Tout se passe comme si le centre de gravité de la philosophie pratique, après la deuxième critique, après la critique de la raison pratique, se déplaçait de la volonté vers l'arbitre et vers les conditions de la liberté de l'arbitre. Et tout ceci aboutit dans la métaphysique des mœurs, et notamment dans l'introduction à la métaphysique des mœurs, à des affirmations très surprenantes, et ce qui me surprend encore le plus, c'est qu'elles n'aient pas été plus commentées. D'une part, dans l'introduction de la métaphysique des mœurs, Kant identifie explicitement la volonté et la raison pratique. D'autre part, il affirme que seul l'arbitre, c'est-à-dire le pouvoir d'effectuer des choix qui éventuellement peuvent être rationnels, entre des possibles, eh bien, il affirme que, expressément, c'est pas mon interprétation, que seul l'arbitre peut être dit libre, et que, en toute rigueur, la volonté ne peut être dite ni libre, ni non libre. Je croirais presque chez Spinoza. Donc il y a une profonde évolution de la conception kantienne de la rationalité pratique que reflètent les transformations des concepts de liberté, de volonté et d'arbitre. Alors j'ai essayé de proposer une interprétation de cela. Il me semble assez clair maintenant que Kant essaye, jusqu'au point d'aboutissement qui est sur ce point la métaphysique des mœurs, de se défaire de la topique classique faisant de ratio et voluntas les deux facultés fondamentales de l'esprit. À partir de la critique de la raison pratique, il est acquis pour Kant qu'on ne peut se satisfaire d'une définition strictement cognitive de la raison. Au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, il souligne, et de plus en plus fortement, que la vocation propre de la raison est d'être normative. Et réciproquement, à mon avis, les deux évolutions sont tout à fait liées, il s'éloigne d'une conception de la volonté comme pouvoir de choix, c'est-à-dire comme arbitrium, comme arbitre. Descartes emploie encore le terme arbitre pour traduire le latin arbitrium et pour désigner ce pouvoir de choix. La destination propre de la volonté n'est pas d'opérer des choix, mais bien plutôt de déterminer les choix qu'opère l'arbitre. Alors, s'agissant de la liberté, il y a aussi une évolution extrêmement importante du concept qui se traduit, j'essaye de résumer le propos pour ne pas accaparer trop de temps, et je vois que le temps passe. Un indice de cette évolution profonde, c'est qu'on voit disparaître progressivement le concept de liberté pratique des textes kantiens, alors même qu'il se convainc, que Kant se convainc de plus en plus que la vocation propre de la raison est d'être pratique. Mais l'expression même « liberté pratique » disparaît petit à petit, alors qu'elle était très présente dans la critique de la raison pure, où Kant distinguait la liberté transcendantale et la liberté pratique. En réalité, quand on regarde les textes de près, on s'aperçoit que dès la critique de la raison pratique, Kant se convainc que liberté transcendantale et liberté pratique ne font qu'un. Ça, c'est un point qui peut être discuté. C'est le sentiment que j'ai. Je reconnais que c'est une interprétation qui peut être discutée. En tout cas, il le dit expressément dans la critique de la raison pratique, que liberté transcendantale et liberté pratique sont une seule et même chose. Je vous renvoie à la traduction de Fussler, page 124-128, dans cette traduction. Le problème, c'est que cette fusion entre liberté transcendantale et liberté pratique aurait dû entraîner, de la part de Kant, un remaniement du concept de liberté transcendantale tel qu'il avait été exposé dans la critique de la raison pure. Or, ce remaniement n'est pas opéré. Du coup, il y a une sorte de... En réalité, il n'entend plus la même chose par concept de liberté transcendantale à partir du moment où il considère que la liberté pratique, la liberté en tant qu'elle est mise en œuvre dans des choix normatifs, que la liberté pratique et la liberté transcendantale ne font qu'un, mais il n'explicite pas cela en affinant ou transformant, comme il le faudrait, le concept de liberté transcendantale. Bon, bref, la conviction que je me suis faite est qu'une véritable césure intervient, non seulement, ça c'est assez couramment admis, entre la première édition de la critique de la raison pure et, quelques années plus tard, la publication de la Fondation de la métaphysique des mœurs et de la critique de la raison pratique, mais aussi entre les deux écrits que je viens de citer et ceux des années 1790. Et à cet égard, le texte de 1793 sur la religion dans les limites de la simple raison joue un rôle absolument décisif, parce que c'est dans ce texte où Kant se pose la question comment se fait-il qu'on puisse librement choisir de faire le mal, qu'on puisse faire le choix du mal. C'est dans ce texte que le concept de Willkür, d'arbitre, acquiert la position centrale qu'il va avoir chez le dernier Kant. On voit dans ce texte que le concept de volonté est pratiquement absent, alors que le concept de Willkür, d'arbitre, intervient à chaque page et plusieurs fois par page. Il est le centre de la théorie. Bon. Alors, deuxième point, mais je vois que je n'aurai pas le temps de traiter les quatre. Deuxième point, mais là je suis obligé de le traiter puisque j'ai été en quelque sorte fermement invité à le faire, concerne la théorie de la raison normative et le fameux fait de la raison. Bon, c'est le deuxième chapitre du livre. Je suis parti de ce qui m'apparaît de plus en plus comme une légende, mais c'est une légende qui a la vie dure, la fameuse légende du formalisme de la philosophie kantienne, illustrée par la fameuse formule que j'ai mise en exergue, excusez-moi, de Peggy que j'ai mise en exergue du livre, que tout le monde connaît. Kant a les mains propres, mais il n'a pas de mains. Ça me semble, cette imputation me semble être une erreur radicale et reposer sur un contresens sur en fait la nature même de la doctrine kantienne des impératifs ou de la loi fondamentale de la raison pure, ainsi qu'il la dénomme à partir de la critique de la raison pratique. En fait, l'impératif catégorique, bon, je ne reviens pas sur la différence impératif catégorique, impératif hypothétique, etc., mais l'impératif catégorique, ou la loi fondamentale de la raison pure, n'est pas destiné à engendrer des contenus normatifs, c'est-à-dire ce que Kant appelle dans son jargon les maximes, que le sujet choisit de suivre dans son action, mais plutôt il ou elle, il constitue un test permettant d'évaluer la consistance des positions normatives du type « il faut faire X, il faut s'abstenir de faire Y ». Cette règle, alors si on veut, est formelle, parce qu'elle demande seulement, elle demande seulement qu'on évalue l'universalisabilité des maximes subjectives, des maximes donc que les individus suivent dans leurs actions. Mais évidemment, cette règle s'applique à des contenus, contenus dont d'ailleurs il faut se demander d'où ils viennent. Ça, c'est un problème, et un problème auquel Kant ne répond jamais directement. Mais il y répond indirectement. Parce que c'est bien joli de dire que la loi fondamentale de la raison pure permet d'évaluer des contenus normatifs. Tu ne dois pas voler, tu dois restituer le prêt qui t'a été accordé, etc., etc. Mais d'où viennent ces contenus et quels sont les contenus dont on va évaluer la pertinence du point de vue de la raison normative? Là, la réponse, à mon avis, en est fournie par est à chercher en suivant la trace, si je puis dire, de notions que Kant utilise régulièrement, mais sans jamais expliquer exactement ce qu'il entend par là. Des notions comme celle de raison commune, d'entendement le plus ordinaire, Moi, j'ai parlé de raison publique, notion que j'emprunte bien sûr à Rawls, pour désigner justement cette capacité collective, rationalité collective, qui finalement fait que les contenus normatifs qui sont proposés à l'évaluation de la raison pure, ces contenus normatifs, ils sont là, sous la main. C'est ce qui m'a amené, dans la conclusion du livre, à avancer une hypothèse un peu provocatrice et tout à fait discutable, selon laquelle, avec cette théorie de la raison commune, qui encore une fois n'est pas une théorie, parce qu'elle est disséminée dans les textes sans que jamais Kant s'explique exactement ce qu'il entend par là. Vous savez, il dit toujours qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tout le monde le sait ce qu'il faut faire. Nous le savons tous, vous comme moi. Et par conséquent, ce n'est pas un problème. J'ai vu là l'ébauche de quelque chose comme une théorie de la Sittlichkeit, au sens que Hegel donnera à ce terme, c'est-à-dire l'idée qu'il existe quelque chose comme une raison sociale, si on veut. Hein. Pinkard, Terry Pinkard, qui m'a fait l'amabilité de faire un très long compte-rendu de ce livre dans une revue. Je lui ai emprunté l'expression de socialité de la raison pour désigner en fait cette dissémination de la rationalité dans des croyances, dans des pratiques partagées, qui doivent faire l'objet d'une évaluation, certes. Il ne faut pas accepter les croyances partagées seulement parce qu'elles sont partagées. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation normative, mais cette évaluation normative, en quelque sorte, travaille à partir d'un matériau qui est fourni, en quelque sorte, par cette raison commune, par cet entendement le plus ordinaire dont Kant nous parle si souvent. Il parle aussi de jugement commun de la raison, d'usage commun de la raison, de saine raison. Enfin, il y a toute une série d'expressions qui reviennent, qui varient, et encore une fois, j'ai proposé de les interpréter. Quant au fait de la raison, la fameuse bouteille à l'encre du commentaire kantien, bon, je rappelle qu'il existe que cette expression ne se rencontre que dans la critique de la raison pratique, qu'il y en a 7 occurrences dans ce texte, et que, au moins à première vue, à chaque fois, ça veut dire quelque chose de différent. Donc c'est vraiment un problème, c'est une expression qui est tout sauf univoque, et déjà, les commentateurs se disputent pour savoir quel est le contenu de ce fait. Pour ma part, j'ai hasardé l'interprétation suivante, mais Kant dit bien que ce fait est tout à fait singulier, puisque c'est, dit-il, l'unique fait de la raison pure. C'est un fait non factuel, c'est un fait non empirique, donc c'est une sorte de cercle carré, puisque un fait qui n'est pas empirique n'est pas un fait, d'où l'insistance de Kant à souligner son caractère unique, etc. Alors, mon interprétation est que le fait de la raison, c'est le fait de la normativité elle-même. Autrement dit, l'évidence de ce que l'expression, des expressions du type je dois faire X ou je dois m'abstenir de faire Y font immédiatement sens pour nous. Tout en se refusant à toute saisie intuitive ou à toute inférence déductive. Autrement dit, la raison pure se sait immédiatement investie d'un pouvoir normatif incontestable. Et selon moi, le fait de la raison, c'est cette conscience immédiate qu'a la raison d'être investie d'un pouvoir normatif. Mais, ma raison ne peut s'attribuer ce pouvoir sans le concevoir comme un pouvoir partagé, et d'où justement le lien avec cette idée de raison commune, de raison qui est à l'œuvre dans les croyances, les convictions collectives, les mœurs, etc. Le fait de la raison implique donc la postulation d'une capacité normative universellement partagée. Tout être capable de concevoir qu'il doit faire quelque chose, ou qu'il doit s'abstenir de faire quelque chose, que cet être est figure humaine ou non, ça pourrait être un martien ou un pur esprit, tout être susceptible donc simplement de concevoir qu'il doit faire quelque chose doit être considéré comme un être rationnel et non pas comme un automaton spirituel. Kant reprend cette expression très drôle qu'utilise à plusieurs reprises Leibniz dans la Théodicée lorsqu'il dit que si on suit certaines conceptions de la liberté humaine ne serait guère différente de celle d'un tournebroche, le tournebroche sur lequel l'agneau ou le poulet est en train de rôtir. Eh bien, pour éviter que notre liberté ne soit celle d'un tournebroche, comme dit Leibniz, il faut que nous postulions en quelque sorte cette capacité normative de la raison. Bon. Troisième, je résume en deux mots hein, les deux autres chapitres, je ne veux pas parler plus longtemps. Le troisième chapitre porte sur les rapports entre droit et éthique, et sur les rapports donc entre normativité éthique et normativité juridique. Et dans ce chapitre, j'ai voulu avant tout combattre une idée qui devrait avoir cessé d'avoir cours depuis longtemps, mais qui continue néanmoins, quand on lit les commentaires, à être présente, l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de hiérarchie entre normativité juridique et normativité éthique, chez Kant, je veux dire, et selon laquelle la normativité juridique ne serait qu'une forme imparfaite ou de normativité. Certains commentateurs ont même soutenu que les impératifs juridiques n'étaient que des impératifs hypothétiques, du type « si tu veux faire ceci, alors tu dois faire cela », et non pas des impératifs catégoriques. Kant dit expressément le contraire dans la métaphysique des mœurs. Dès lors, ce qu'il y a en réalité, à mon avis, c'est que cette idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie entre le droit et l'éthique, le droit étant en quelque sorte le maillon préliminaire de la vraie moralité qui est d'ordre éthique, ça s'explique notamment dans le contexte français par le poids historique qu'a eu la traduction par Victor Delbos des fondements de la métaphysique des mœurs et le grand commentaire de Victor Delbos, la philosophie pratique de Kant. C'est de là que ça vient, et c'est le privilège accordé dans l'interprétation du corpus de la philosophie pratique kantienne à ce texte de 1785, les fondements ou la fondation de la métaphysique des mœurs, qui peut expliquer ce type d'erreur, disons, ce qui m'apparaît comme une erreur. En effet, il n'est pas certain, ça j'en conviens volontiers, que Kant se soit tout de suite aperçu que sa conception de la rationalité pratique impliquait d'elle-même une réévaluation du droit. Il est fort possible, parce que j'avais eu toute une discussion à ce sujet avec quelqu'un que je considère comme un des plus grands commentateurs et de Kant et de Hegel, Hans Friedrich Fulda, et il m'objectait toujours, il dit « mais Kant parle de l'impératif catégorique de l'éthique ». Après vérification, cette expression n'apparaît qu'une fois chez Kant, et c'est dans la fondation de la métaphysique des mœurs. Ensuite, chaque fois qu'il parle d'impératif catégorique, il ne précise plus dans quel champ ça fonctionne, si je puis dire, et même dans la métaphysique des mœurs, donc dernier état de sa réflexion éthique et juridique, il parle explicitement aussi bien d'impératif catégorique éthique que d'impératif catégorique juridique. Pour différentes raisons, il m'apparaît donc qu'une réévaluation forte du droit s'opère chez Kant, Et il est très probable que l'expérience de la Révolution française a joué un rôle dans cela, puisqu'en effet, d'une part, Kant perçoit dans la Révolution française, à certains égards, une révolution du droit et des droits. Pas la peine, c'est évident. Mais en même temps, l'analyse qu'il fait de la terreur, et qui, analyse qui sera reprise et développée par Hegel, c'est que la terreur apparaît comme une sorte de déviation éthicisante du droit, ou si vous voulez, la moralisation du droit peut conduire à une terreur. Hein, je pense là à la phrase très belle de Hegel à propos de Robespierre. On peut dire ce qu'on veut de Robespierre, mais cet homme a profondément cru à la vertu. Et je pense que ça éclaire aussi le propos de Kant. Si l'on veut éviter le risque et les conséquences catastrophiques d'une dictature de la vertu, alors il importe de séparer strictement, et c'est ce à quoi Kant travaille dans ses dernières œuvres, la sphère de la normativité éthique, la sphère du droit, et la sphère de la normativité juridique. D'où, me semble-t-il, la tendance toujours forte à bien marquer ce qui distingue les deux domaines. Il y a une métaphysique du droit, comme il y a une métaphysique de la vertu. Ce sont deux formes d'exercice, deux domaines d'exercice de la rationalité pratique, et il n'est pas question, me semble-t-il, c'est le dernier état de la pensée de Kant, d'accorder à l'une, je veux dire à l'éthique, un privilège par rapport à l'autre. Bien sûr, le mode de rapport des sujets aux normes éthiques dans un cas, juridique dans l'autre, n'est pas le même. Kant dit que les normes éthiques nous engagent intérieurement, alors que les normes juridiques ne nous engagent pas forcément intérieurement. Il ne dit pas quelles sont les normes extérieures, parce qu'on peut aussi adhérer subjectivement à la norme juridique, dire qu'il est bien que le droit soit, mais elle ne nous engage pas nécessairement intérieurement, c'est-à-dire que la validité de la norme juridique n'est pas conditionnée par mon adhésion subjective à cette norme. Voilà. Mais ça ne fait en rien que la normativité juridique, que les normes juridiques soient en quoi que ce soit inférieures aux normes éthiques. Voilà. Et le dernier chapitre, là, je dis juste un mot, là, je me suis un petit peu amusé j'ai essayé, à partir d'une réflexion sur les rapports entre métaphysique et anthropologie chez Kant, j'ai essayé d'expliquer qu'il n'y a pas de philosophie de l'histoire pensable dans le cadre de la pensée kantienne. Si on prend le terme philosophie au sens strict que lui accorde Kant, si on prend philosophie au sens de la philosophie pure telle que l'entend Kant, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir une métaphysique de l'histoire, la entre guillemets philosophie de l'histoire de Kant relève bien plutôt de l'anthropologie que de la philosophie pure. Autrement dit, Kant définit l'anthropologie comme une forme de philosophie appliquée, et en ce sens ça m'apparaît très dommageable de parler sans précaution de la philosophie de l'histoire de Kant, ce qui autorise certains commentateurs, je ne vais pas donner de nom, à dire qu'en fait de la ruse de la nature de Kant à la ruse de la raison de Hegel, qui elle-même est comprise d'une façon parfois un peu triviale, il y a un mouvement continu, et que c'est ce regrettable lait des philosophies de l'histoire que l'idéalisme allemand nous a donné, ça donne Marx, etc., etc. Comme justement j'ai voulu dégonfler un peu cette baudruche en indiquant bien les limites qu'il est possible d'accorder à la pensée de l'histoire ou à la réflexion sur l'histoire dans le cadre de la philosophie kantienne, si on comprend la philosophie au sens où Hegel bien sûr l'entend. Voilà, je m'arrête là parce que je trouve que ça suffit.